Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
Le mois de novembre est un mois consacré au chant, mais aussi au chant médiéval. Depuis plusieurs années, la figure d'Hildegarde de Bingen revient sur le devant de la scène. Cette femme, docteur de l'Église, contemporaine du XIIe siècle, a beaucoup à nous apprendre sur les vertus du chant, mais aussi sur le rire. Elle a composé plus de 70 hymnes et séquences liturgiques, a laissé derrière elle de nombreux écrits, qu'ils soient mystiques ou thérapeutiques. Alors, le chant médiéval peut-il être une lumière pour notre spiritualité contemporaine ? On en parle aujourd'hui avec Frédéric Rentière, directeur de l'ensemble médiéval Vox Inrama, qui va nous présenter notamment ses ateliers de chant, mais aussi son spectacle autour d'Hildegarde de Bingen. Frédéric, bonjour.
Bonjour Maxime.
Alors peut-être pour débuter cette émission, Frédéric, ça fait quelques mois, quelques années déjà que vous vous intéressez à la figure d'Hildegarde de Bingen.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que dans mon parcours justement d'abord de chantre, puisque j'ai longtemps chanté la liturgie latine de l'Église, mais aussi de chercheur, puisque j'ai un doctorat en anthropologie religieuse, et de grégorianiste, comme on dit dans le jargon, j'ai toujours cherché les origines spirituelles du chant, essayer de remonter un petit peu la chaîne et dire mais d'où vient, quelle est l'inspiration, quelles sont les inspirations de ce chant. Et Hildegarde de Bingen m'a apporté énormément de réponses, puisque c'est un auteur qui a à la fois composé des chants, mais a réfléchi sur l'origine de ses chants et de ses inspirations.
Qu'est-ce qu'elle nous apprend justement sur l'origine de ses chants et ses inspirations ?
Alors elle nous apprend, c'est justement le chant que j'ai choisi, qui est assez édifiant pour ça, c'est que le chant vient à l'origine de mélodies qu'on n'est pas en mesure d'entendre, enfin qu'on n'est plus en mesure d'entendre, explique-t-elle. Et ces mélodies, elles, elle les appelle des symphonies. Et ces symphonies, en fait, sont des émanations, des harmonies qui viennent des anges. Alors, tout le travail, c'est de redonner forme humaine à ces mélodies que l'oreille humaine n'entend plus. Et là, le chant que j'ai choisi, qui s'intitule « O Ortskis Ecclesia », comprend des mots de la langue inconnue d'Hildegarde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du latin, il y a aussi une langue qui, elle, est inspirée et qu'elle dit provenir de l'état de l'Adam au moment de l'Éden, avant l'exil en fait du paradis.
Okay. Hildegarde elle-même a conçu une langue, sa propre langue.
Voilà, ce qu'on appelle la lingua ignota.
Ouais.
Et cette langue donc a été même, on a même, il y a même des, elle a même demandé que des glossaires, c'est-à-dire des dictionnaires, soient faits. C'est un dictionnaire de 1011 mots d'ailleurs. Ouais. Et la caractéristique de cette langue, c'est qu'elle ne contient pas de verbes. C'est-à-dire que c'est une langue juste constative, c'est la langue de l'enfant, c'est la langue de la musique en fait, c'est juste le fait, le plaisir des mots. C'est une langue qui ne connaît pas le temps, elle est dans l'éternité.
Une langue de l'éternité qui serait une langue susurrée par les anges, c'est ce qu'elle nous dit.
Voilà, mais alors elle dit qu'il faut lui donner une forme humaine.
Oui.
Parce que l'homme ne l'entendrait pas. C'est d'ailleurs une des scènes du spectacle va être concentrée là-dessus. On recrée toute une atmosphère d'harmonie divine autour d'Hildegarde et on essaye de mettre en scène comment elle a fait mettre par écrit, avec à l'aide de son scribe, cette langue pour que ces mots sonnent à l'oreille humaine et qui ressemblent aux usages humains, même si ça reste une langue inspirée divinement, qui n'est pas humaine.
Alors avant d'écouter justement quelques extraits de ce morceau dont vous venez de nous parler, O Ortskis Ecclesia, Ortskis d'ailleurs c'est un mot
de
précisément
la inconnue,
de la langue inconnue.
Tout à fait, voilà, qui veut dire immense.
Immense,
immense. Et pourquoi dit-elle Ortskis au lieu de dire Imensa ? Ben justement, c'est pour recontacter la langue du premier Adam.
Alors, ce qu'il faut dire aussi sur Hildegarde de Bingen, c'est qu'elle est contemporaine du XIIe siècle, bénédictine. Oui. On peut parfois s'interroger justement sur le fait qu'elle ait pu écrire beaucoup, largement d'ailleurs sur la musique, vous l'avez dit, sur la médecine aussi, mais sur sa spiritualité. Pour une femme du XIIe siècle, c'est quelque chose d'assez peu commun.
Oui, c'est très peu commun. Elle avait, de par sa famille, les plus puissants appuis politiques de l'époque. C'est ce qui faisait qu'elle pouvait parler, beaucoup d'historiens l'ont rappelé, d'égal à égal avec les papes de son temps. Donc elle avait quand même les coudées franches à ce niveau-là, même si elle devait souvent rendre quand même... elle avait quelques problèmes avec les supérieurs de Mayence qui lui rappelaient qu'elle était quand même une femme et qu'elle elle devait normalement respecter la règle. Mais bon, même si ça a failli mal tourner à juste avant sa mort, puisqu'elle a quand même reçu une sentence d'excommunication de son monastère en Rupertsberg, qui a été levée un an après, elle s'est quand même toujours défendue avec une grande dignité et elle a toujours su remettre Dieu au centre. Et c'est ça, je trouve, la grande force de ce personnage.
Alors Frédéric, on va écouter un premier extrait justement de ce morceau O Ortskis Ecclesia, c'est un extrait qui est interprété par qui? Qui Alors, peut aujourd'hui interpréter Hildegard de Bingen?
Alors là, c'est l'ensemble de Benjamin Bagby qui donc a interprété l'intégrale de l'œuvre des 77 chants d'Hildegard de Bingen, l'ensemble Sequentia. Et donc là, on va entendre une version justement qui va essayer de mettre en valeur le fait que plusieurs, il y a 5 mots de la langue inconnue, et essayer de les faire retentir et de leur donner toute leur dimension mystique.
On l'écoute tout de suite. Donc un extrait de O Ortskis Ecclesia, composé par Hildegard de Bingen. Alors c'est vrai qu'en entendant cette voix si cristalline et en même temps qui appelle vraiment à nos profondeurs spirituelles, on se plonge d'une certaine manière dans les images qu'on a, parfois d'Épinal d'ailleurs, du Moyen-Âge.
Oui. Alors on pourrait reprendre les paroles d'Hildegard, justement, quand elle parle de cette langue, elle nous dit dans le livre des Mérites de la vie, quand elle parle des vierges, et la langue inconnue pour elle, c'est la langue des vierges au paradis, elle dit « Alors, vierge, homme ou femme d'ailleurs, il comprenait, savait et parlait une langue secrète que nul autre ne connaît et ne pourra jamais parler. » Et elle dit aussi au pape Anastase IV dans une lettre « Ce que tu produis dans le langage qui t'a été révélé d'en haut et non selon les formes de l'usage humain, donc elle fait bien la distinction entre une langue inspirée et une langue humaine, car cet usage ne t'a pas été donné, transmis, celui qui tient la lime, là il s'agit du secrétaire, puisqu'elle faisait toujours écrire, n'aura de cesse qu'il ne l'ait poli pour en tirer un son agréable aux hommes. » Là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que cette langue, il faut la polir selon l'usage humain, la faire ressembler le plus possible à l'usage humain pour que l'homme ait la chance de pouvoir entendre cette langue angélique. Donc on voit bien qu'on est à la frontière entre deux mondes, et elle se situe vraiment entre les deux. Et elle veut, dans ce chant, justement, nous faire recontacter cette langue divine, la langue de l'Adam.
C'est vrai que ce chant appelle au cœur, appelle à la transcendance, d'une certaine manière. C'est vrai
qu'on est à l'intérieur, retrouver à l'intérieur de nous-mêmes la transcendance. C'est ça qui est fort chez Hildegard.
Mais ce qui est curieux aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut entendre dans les églises, d'une manière générale, ça n'est pas forcément du chant grégorien, parce que ça demande aussi une maîtrise d'interpréter ce type de chant. Oui. Et on a des chants peut-être qui font moins appel aussi à cette intériorité.
Bon, je pourrais dire, si je reste dans la langue d'Hildegard, dans sa manière de penser, qu'aujourd'hui on chante beaucoup à la manière humaine, le chant liturgique. On par peur, par crainte certainement des difficultés techniques qu'imposerait un chant plus proche de l'éternité, plus proche du divin, on a tendance un petit peu à trop le séculariser. Bon, ça c'est mon point de vue, mais c'est simplement pour dire qu'il ne faut pas oublier que la louange divine, comme on l'a toujours appelée, reste quand même, elle a une origine en tout cas qui est inconnue, au sens divine, qui n'est pas humaine. Et c'est ça quand même qu'on doit essayer de rendre le plus possible. Et c'est ce que dans le spectacle, on essaye de faire sentir. C'est que même si on travaille sur la voix humaine avec des instruments qui ont été inventés par des hommes, l'immanence, on devrait plutôt dire, cette immanence, elle est en chacun de nous. Elle peut être expérimentée de manière très sensible et plutôt que d'avoir peur de la difficulté, qui à mon avis est de faux problèmes, il faut simplement prendre le temps de sentir ce qui se passe en nous. C'est pour ça que je propose des ateliers de chant, justement. Mmh. Même pour un public qui ne chantera pas peut-être directement, mais pour qu'il comprenne ce que c'est que l'inspiration, l'expiration et la relation à la spiritualité. Mmh. Il n'y a pas vraiment, pour moi aujourd'hui, de spiritualité sans relation à la respiration.
Oui. Justement, on va en parler de cette relation à la spiritualité, à la respiration, comme vous dites, c'est intéressant. Les gens qui participent à vos ateliers de chant, Frédéric Rentière, comme vous le dites, ce sont des gens qui, des néophytes, ce sont des gens intéressés précisément par le chant médiéval ou qui ont envie d'apprendre.
Alors là, par exemple, on a déjà le spectacle qu'on va refaire les 17, 18, 19 novembre. On l'a déjà fait deux fois au mois de mai et on a eu presque 80 personnes sur les deux ateliers. Et c'était beaucoup de gens qui n'avaient jamais chanté. Et puis un tiers, on va dire, qui avait déjà chanté, mais pratiquement pas du grégorien, qui était vraiment chanté plutôt dans des chœurs classiques, etc. Et qui tous étaient quand même très unis par une même recherche, qui était justement la relation entre la respiration et ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité, c'est-à-dire l'esprit, tout simplement. Quelle relation y a-t-il entre l'esprit et la respiration ?
Alors peut-être dites-nous quelques éléments, ça peut paraître un petit peu nébuleux.
Nébuleux,
ce lien entre la respiration et la spiritualité.
Oui, parce que c'est un langage aujourd'hui qui est effectivement très abscon. Alors justement, pour rentrer comme porte, j'ai choisi comme thème pour les ateliers de chant la question du rire. Ça peut paraître complètement étrange, parce que d'une manière, il me parle de respiration, de spiritualité, puis d'un seul coup, il nous parle du rire.
Hildegard parle du rire aussi.
Mais voilà, c'est parce qu'Hildegard parle du rire, et je vais repartir d'elle, et de recherches que j'ai faites, j'ai publié sur moyenagepassion.com, un article sur le rire de la rate, c'est-à-dire que pour Hildegard, comme beaucoup de médecins médiévaux, le rire a une cause physiologique. Il vient d'un déséquilibre organique, et souvent d'une souffrance de la rate, puisque la rate est le siège du rire, a toujours été le siège du rire. C'est pour ça qu'on parle bien de rire désopilant, c'est-à-dire un rire qui débouche la rate à l'origine. C'est une expression médicale ancienne. Bon. Et donc du coup, l'expérimentation qui va être proposée là, ça va être de faire la relation entre le rire et le chant, puisque Hildegard nous explique que le rire va apparaître à un certain moment dans le développement de l'humanité.
Ouais.
C'est-à-dire que l'Adam ne sait pas rire, il ne connaît pas l'expérience du rire.
C'est formidable le rire. Non.
Oui, alors justement, il est à la fois signe de santé.
Ouais.
Si effectivement c'est un rire qui est spontané et qui reste, comment dire, léger, qui s'intègre à la personnalité. Mais dès l'instant que le rire commence à devenir un ricanement, quelque chose qui est symptomatologique, c'est-à-dire quelque chose qui devient chronique, qui s'installe ou qui n'est pas toujours cohérent ou qui semble même forcé, à partir de ce moment-là, il faut avoir l'œil. C'est qu'il y a une souffrance. C'est que ce rire, en fait, vient, on va dire, compenser un déséquilibre et vient libérer d'une souffrance. Alors, et l'idée, c'est justement, elle essaie d'expliquer pourquoi le ricanement apparaît à un moment dans le développement de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se met à ricaner et qu'il cesse ce chant naturel, ce chant le babillement dont on parle souvent au Moyen-Âge. L'Adam est un enfant qui babille, qui s'émerveille. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de verbes, finalement. Il invente les mots, il nomme les animaux. C'est une langue de la révélation immédiate. Et pourquoi il va se mettre à rire? C'est quand il va commencer à se sentir séparé de Dieu. C'est-à-dire, finalement, c'est la relation entre le sentiment d'abandon, de devenir, et qui va entraîner un sentiment d'être incomplet, de ne jamais pouvoir réaliser totalement les choses, qui va faire que le rire va devenir une façon de se libérer de cette humeur nouvelle qu'il va découvrir en lui, qu'on appelle la tristesse, qu'il n'avait jamais connue. Il ne connaissait pas la tristesse.
Rire est le pendant de la tristesse, d'une certaine manière.
Oui, totalement. En fait, au Moyen-Âge, il n'y a pas de dissociation entre tristesse. Il y a bien sûr une dissociation terminologique, pour les termes, mais sur le fond de la pensée, le rire est une forme d'expression de la tristesse le plus souvent.
Et pourtant, la tristesse et la mélancolie existaient bien évidemment avant le Moyen-Âge.
Oui, alors la mélancolie, c'est quelque chose qui existait à l'époque.
Tout n'était pas gai et joyeux.
Non, alors Platon en parle très très bien dans son Timée. Il y a toute la physiologie qui est développée, la physiologie grecque dont les médiévaux, Pline l'Ancien aussi, qui dans son Histoire naturelle, etc. Tout ça, ça va être la base, bien sûr, de la médecine médiévale. Mais qu'est-ce que répètent sans cesse ces grands auteurs que le Moyen-Âge va ensuite sans cesse reprendre? C'est qu'il y a une relation entre le sentiment de tristesse et le sentiment, on va dire, de séparation et le fait de rire comme une manière de se distancier par rapport à quelque chose qu'on ne veut pas voir en soi. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que le plus souvent, le réflexe, tout le monde l'a expérimenté, on marche dans la rue, on voit quelqu'un qui a une façon curieuse, par exemple, de déambuler. On va rire, mais si on commence à essayer de comprendre pourquoi on rit, c'est parce qu'il y a une dimension dans cette déambulation, il y a une dimension difforme, il y a une dimension dérangeante qu'on ne veut pas voir. Alors plutôt que de se dire « cette personne souffre », de rentrer dans l'empathie, ce qui serait une autre façon de rentrer en communication, on pourrait parler de communication d'ailleurs pendant ce moment-là, mais non. On se dissocie par le rire, même si ce n'est pas méchant, même si ce n'est pas intentionnellement méchant, il y a quand même un réflexe de séparation. On reproduit le sentiment de séparation pour ne pas avoir à assumer le fait d'être comme cette personne.
C'est une arme, d'une certaine manière, inconsciente.
Bien sûr, le rire est une arme. Oui.
Et vous-même, Frédéric Rentière, vous arrivez à distinguer le rire du ricanement quand vous observez un petit peu les contemporains.
Oui, j'ai toujours été très sensible à ça. C'est pour ça que je me suis particulièrement intéressé à ces textes-là quand je les ai découverts. C'est que pour moi, c'était des choses qui n'étaient pas nouvelles du tout. Et dans le chant, justement, et ce que je voudrais expérimenter dans cet atelier de chant, c'est le fait que le rire est quelque chose de spontané, qu'il est l'expression de la santé du cœur, de la chaleur du cœur. On parle beaucoup en médecine médiévale. Le rire, c'est la présence d'un cœur chaleureux, d'un cœur qui est dans l'ouverture et un cœur qui est réchauffé aussi par le foie, par la rate, etc. Et qu'est-ce que ça signifie qu'un rire sain ? Et qu'est-ce que ça signifie qu'un rire qui très vite peut devenir malsain ? Et dans le chant, très souvent, on cherche la souplesse, on cherche le rebond de la voix, on cherche la joie, puisqu'en fait, le rire et la joie sont intimement liés. Mais dès l'instant que ce rire n'est pas bien intériorisé, bien senti, qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe en nous, cette joie qu'on cherche tout le temps dans le chant liturgique, justement, on est comme entravé. C'est comme s'il y avait une barrière intérieure. Il faut affiner, il faut ressentir des choses plus en profondeur. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je pense, on confond joie et rire. Oui. Et notamment, le problème dans le chant liturgique qui revient souvent, c'est qu'on cherche la joie. Et moi, je dirais, la joie, pour la chercher, il faut d'abord clarifier le sentiment qu'on éprouve par rapport à l'autre et par rapport à soi-même. Il faut apprendre à s'aimer pour éprouver cette joie qui est une joie pure. S'il ne s'agit pas de provoquer la joie. La joie ne se provoque pas, la joie se ressent.
On pourrait vous arguer finalement le bon sens aussi de la spontanéité. Mieux vaut être spontané, même si on n'a pas forcément réfléchi à la généalogie de notre joie, plutôt que de tout intérioriser ou intellectualiser.
Tout intellectualiser, des fois, c'est biaisé, justement. Oui. En voulant tout expliquer, c'est une façon assez habile, finalement, de détourner les vrais problèmes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une spontanéité, mais une spontanéité qui ne devient pas chronique.
Oui.
Quelque chose qui reste naturel.
Alors, on continue notre plongée dans ces chants magnifiques d'Hildegard de Bingen. Toujours avec ce morceau, O Ortkis Ecclesia. On en écoute encore quelques extraits, puis on revient à vous. O Ortkis Ecclesia d'Hildegard de Bingen, morceau magnifique. Frédéric Rentière, est-ce que ces 77 hymnes et chants liturgiques, justement, qui ont été composés par Hildegard au XIIe siècle, ont été interprétés du temps d'Hildegard ?
Alors, c'est une bonne question. Du temps d'Hildegard, oui, puisqu'elle, c'était les chants de la liturgie qu'elle avait composée. Enfin, en tout cas, qu'elle dit avoir reçu des anges dans sa biographie, mais en tout cas, qui était chanté dans son monastère, ce qui était exceptionnel. Oui, voilà. Mais malheureusement, après sa mort, on a pratiquement aucune trace de la pérennité. Donc, on pourrait dire qu'Hildegarde est un peu un météore au Moyen-Âge.
Elle est revenue finalement sur le devant de la scène à quelle période de l'Église ?
Elle est revenue sur le devant de la scène, je pense à la deuxième moitié du XXe siècle, avec le regain.
C'est curieux.
Alors, c'est lié au nouvel agisme, au New Age, qui a beaucoup repris Hildegarde pour son côté holistique. Et l'expansion après du bien-être et de la façon du rapport entre la façon de se nourrir et le bien-être a fait que tout le regain qu'il y a aujourd'hui pour tout ce qui est le petit épôtre, manger sainement, etc., des scélérats anciens, etc., a fait que Hildegarde elle a explosé les compteurs, elle est devenue vraiment très populaire. Et là, il a fallu quand même faire quelque chose parce que elle était toujours pas sainte, dans le sens où elle n'avait toujours pas été canonisée, la pauvre. Et d'un seul coup, et là c'est là que c'est Benoît XVI qui en 2012 a rétabli l'équilibre. Mais je pense que c'est quelque chose qui était vraiment essentiel pour l'Église, justement, de bien réintégrer Hildegarde de Bingen.
Mais c'est vrai que quand on entend ce répertoire, ces chants si profonds et si beaux, on est poussé là aussi à une forme d'apaisement, de bien-être. On peut d'ailleurs comprendre pourquoi certaines tendances New Age ont voulu reprendre aussi.
Ils ont eu raison, bien sûr, ils ont eu raison. Mais c'est vrai qu'il faut pas. Ce qui est important aussi, c'est que faut revenir quand même au texte d'Hildegarde, puisque le danger de ça, c'est quand même de croire que c'est un bien de consommation, un plaisir de consommation. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, c'est quand même, il s'agit de quelque chose de très profond. Hildegarde dit, le chant, c'est un des derniers vestiges qui nous reste de la mémoire de l'Adam avant la déchéance. Donc c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui nous relie vraiment à l'origine, à notre origine divine, à l'âme.
C'est une véritable élévation vers Dieu, quoi.
Sa finalité. Voilà, mais en même temps, un ancrage en Dieu, on pourrait dire. C'est à la fois une descente et une montée. Et c'est ça qui est formidable et dont on a besoin. Donc je pense que voilà, il faut vraiment la reprendre à partir de ces textes. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le spectacle, c'est-à-dire il n'y a rien d'inventé. Ce sont les textes d'Hildegarde. On essaye de faire parler et de faire rentrer de rendre dans un langage moderne la langue d'Hildegarde. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, je pense, c'est de pas déformer les auteurs, mais de simplement les faire résonner dans notre temps.
Frédéric Rentière, les gens qui viennent à ces ateliers, on va après donner les dates, bien sûr, et les modalités pour y participer, et aussi à ce spectacle Vox Sanguinis, qui sera interprété les 17 et 18 novembre prochains à partir de 20h à l'église évangélique Saint-Marcel. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vraie recherche, une vraie quête spirituelle des gens aujourd'hui, finalement, liés à ce chant médiéval, à cette redécouverte aussi liturgique, intérieure?
Oui, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis une trentaine d'années et qui n'a pas fini de se développer. Et beaucoup de gens, justement, qui ont quitté l'Église, qui ont quitté la pratique liturgique, et parce qu'ils ne trouvaient pas cette dimension-là et qui sont souvent des gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très exigeants. Et ça, je sais de quoi je parle, parce que dans mes stages de chant, et je fais aussi avec Catherine Roy, qui est énergéticienne, on travaille aussi sur des stages, ce qu'on appelle les stages Hildegarde de Bingen, donc on repart des textes Hildegarde. On a affaire à des gens qui aujourd'hui ne sont plus du tout en lien avec la pratique de l'Église catholique, mais qui sont d'une grande exigence, et peut-être tellement exigeants qu'à un moment donné, ils ont rompu en se disant « je n'ai pas ce que je veux, donc je vais chercher ailleurs ». Et ça, c'est très important que tout le monde en ait conscience de ça. Et on se rend compte qu'au moment où ils recontactent cette dimension intérieure, ce qu'on appelle l'immanence, à partir de ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais quitté cette dimension, qu'ils n'ont jamais vraiment voulu la quitter. C'était juste une confusion. Mais c'est parce que trop d'extériorité pour ces gens-là.
Alors tout le monde peut participer à ces ateliers Hildegarde de Bingen, mais aussi participer et assister surtout à ce spectacle Vox Sanguinis, un magnifique spectacle que je conseille bien sûr à tous les auditeurs d'aller voir. Alors peut-être nous donner quelques dates, Frédéric, mais aussi les modalités pour s'inscrire tout simplement.
Voilà, alors donc trois spectacles, vendredi 17 et samedi 18 novembre à 20h, donc à l'église évangélique Saint-Marcel, 24 rue Pierre-Nicole, Paris 5e, et à 18h, donc avant ces deux spectacles, dans le même lieu auront lieu les ateliers de chant. Alors pour ces deux premiers spectacles, je vous conseille de pré-réserver sur voxinrama.com. D'ailleurs, le tarif est un petit peu plus bas.
Voxinrama tout accroché.
Voilà, www.voxinrama.com. Et puis ensuite, un troisième spectacle à la basilique de Longpont-sur-Orge, magnifique basilique, à 15h. 15h30. Le spectacle, vous pouvez aussi également pré-réserver sur voxinrama.com. Et à 14h, il y aura une petite introduction du spectacle pour le public. Voilà.
Donc à tous les amoureux d'Hildegarde-Bingen et aussi du chant intérieur et du chant médiéval, c'est bien sûr, bien évidemment conseillé. Oui. On l'imagine. Alors peut-être une dernière question, Frédéric, avant de vous laisser repartir dans vos pérégrinations médiévales. Est-ce que vous pensez que ces chants médiévaux, justement, qui émanent d'Hildegarde-Bingen, en l'occurrence, peuvent être inclus dans la liturgie contemporaine?
Ah, bonne question.
Vous avez 10 secondes.
J'ai 10 secondes. Je pense que oui. Je pense que oui, mais elles vont demander un travail. Elles vont demander un travail sur la durée, mais ce travail-là payera énormément. Donc il faut le faire.
On en reparlera d'ailleurs peut-être de cette inclusion possible ou pas justement de tout ce répertoire médiéval dans la liturgie contemporaine. Merci à vous Frédéric Rentière d'être venu nous présenter à nouveau cette figure d'Hildegarde-Bingen mais aussi vos deux spectacles Vox Sanguinis le 17 et 18 novembre prochain à partir de 20h à l'église évangélique Saint-Marcel.
17, 18 et 19
voxinrama.com.